Chapitre 23. Contre ceux qui lisent ou discutent par désir de se montrer. Commence par te demander ce que tu veux être, puis après cela, fais ce que veut le métier que tu auras choisi. Car dans les autres parties, c'est presque toujours ainsi que nous voyons les choses se passer. Ceux qui se destinent à l'arène commencent par décider ce qu'ils veulent être, puis après cela, ils agissent en conséquence. Si tu veux fournir la grande course, voici ta nourriture, voici tes promenades, voici tes frictions, voici tes exercices. Si tu ne veux courir que le stade, tout cela changera. Si tu veux être pentathle, tout cela changera encore. Tu trouveras la même chose dans les arts. Si tu veux être charpentier, voici ce que tu auras à faire. Si tu veux être fondeur, voici encore. Car si nous ne rapportons pas chacune de nos actions à un but, nous agissons au hasard. Et si nous le rapportons à un autre but que celui qu'il faudrait, nous nous égarons. Reste à déterminer le but général et les buts particuliers. Le premier, c'est d'agir comme un homme. Qu'est-ce que cela implique? De ne pas agir comme un mouton tout en étant bon, ni comme un méchant à la façon des bêtes fauves. Quant au but particulier, il varie avec la profession de chacun et avec la vie qu'il a choisie. Que le musicien agisse comme un musicien, le charpentier comme un charpentier, le philosophe comme un philosophe, l'orateur comme un orateur. Lors donc que tu nous dis, venez ici et entendez-moi vous faire une lecture. Prends garde d'abord d'agir ainsi sans but, puis si tu trouves un but à ton acte, prends garde qu'il ne soit pas celui qu'il faut. Cherches-tu à être utile, ou ne cherches-tu que des éloges? Dès lors que l'on parle ainsi, on entend le personnage vous dire. Que m'importent les éloges de la multitude, et il a raison. Car ces éloges ne sont rien non plus pour le musicien en tant que musicien, pour le géomètre en tant que géomètre. Tu veux donc être utile, mais à quoi? Dis-nous-le, pour que nous aussi, nous courions t'entendre. Et maintenant, quelqu'un peut-il faire profiter les autres s'il n'a pas commencé par profiter lui-même? Non. Celui qui n'est pas charpentier ne peut nous aider à devenir charpentier, ni celui qui n'est pas cordonnier à devenir cordonnier. Peux-tu donc savoir si tu as profité? Philosophe, apporte-nous ici tes principes. Que se propose-t-on quand on désire une chose? De ne pas la manquer. Et quand on cherche à l'éviter? De ne pas y tomber. Eh bien nous, réalisons-nous ce que nous proposons dans ces deux cas? Dis-moi la vérité. Si tu me trompes, je te dirai, tel jour, parce qu'on avait été empressé à venir t'entendre, moins empressé à t'acclamer, tu t'es retiré tout honteux. Tel autre, parce que tu avais été applaudi, tu te promenais par l'assemblée en disant à chacun « Comment m'as-tu trouvé? Admirable, maître, par mon salut !» Et comme j'ai dit ce passage, lequel? Celui où j'ai fait le portrait de Pan et des nymphes, merveilleusement. Et tu viendras me dire que tu ne désires et ne redoutes rien que conformément à la nature. Va-t'en le faire accroire à un autre. L'autre jour, n'as-tu pas loué tel individu contrairement à ce que tu en pensais? N'as-tu pas adulé le fils de tel sénateur? Voudrais-tu donc que tes enfants lui ressemblassent? À Dieu ne plaise? Pourquoi donc tant de flatterie et tant d'attention pour lui? C'est un jeune homme merveilleusement doué et un auditeur très intelligent. Comment le sais-tu? Il m'admire. Tu nous as dit ta vraie raison. Mais que te figures-tu donc? Crois-tu que ces gens-là ne te méprisent pas en secret? Quand un homme qui a la conscience de n'avoir jamais rien dit ni pensé de bon trouve un philosophe qui lui dit « Quelle nature d'élite que la tienne! Quelle honnêteté! Quelle pureté! Que crois-tu qu'ils se disent, si ce n'est « Voici un homme qui a besoin de moi. Si je me trompe, dis-moi ce qu'il a fait, qu'il soit l'œuvre d'une nature d'élite. Voici ce qu'il a fait. Il a été assidu près de toi pendant un certain temps. Il t'a écouté parler, il t'a écouté lire. Mais en est-il plus modeste? A-t-il fait un retour sur lui-même? A-t-il le sentiment de sa misère? S'est-il dépouillé de sa présomption? Cherche-t-il un maître? Il en cherche un, dis-tu. Pour lui enseigner comment il faut vivre? Non pas ce que tu es, mais pour lui enseigner comment il faut parler, car c'est pour ta façon de parler qu'il t'admire. Écoute ce qu'il dit. Voici un homme qui écrit avec la dernière habileté beaucoup mieux que Dion. C'est là tout, dit-il. Voici un homme plein de retenue et de probité, un homme que rien ne trouble. S'il parlait ainsi, je lui dirais, puisque cet homme est si probe, qu'est-ce donc en lui que la probité? Et s'il ne pouvait me le dire, j'ajouterais, Commence par apprendre ce que tu dis et ne parle qu'après. Et c'est dans cette triste situation d'esprit, c'est quand tu t'extasies devant ceux qui t'applaudissent, c'est quand tu comptes tes auditeurs, que tu prétends être utile aux autres. Aujourd'hui, dis-tu, j'ai eu beaucoup plus d'auditeurs. Oui, beaucoup, 500, ce me semble. Vous ne savez ce que vous dites, mettez-en 1000. Jamais Dion n'en a eu autant. Et comment les aurait-ils? Puis, comme ils écoutent ma parole, c'est que le beau monsieur agit jusque sur les pierres elles-mêmes, et c'est là le langage d'un philosophe. Ce sont là les sentiments du futur bienfaiteur de l'humanité. C'est là l'homme qui a écouté la raison, qui a lu les livres socratiques, comme on lit des livres socratiques, et non pas comme on lit des livres de Lysias ou d'Isocrate. Au lieu de lire, je me suis souvent demandé avec surprise par quel raisonnement. C'est ceci qu'il faut lire, par quelle raison. Car cet ouvrage-ci vaut mieux que l'autre. Et ces livres socratiques, les avez-vous lus d'une autre façon qu'on ne lit des chansonnettes? Si vous les lisiez comme il faut, vous ne vous attacheriez pas à toutes ces frivolités, mais vous fixeriez plutôt votre attention sur ceci. Anitus et Militus peuvent me tuer, ils ne peuvent me nuire. Et sur ceci encore, je suis de nature à ne m'attacher qu'à une seule chose en moi, à la raison qui, bien considérée, me paraît la meilleure. Aussi, quelqu'un a-t-il jamais entendu dire à Socrate « Je sais et j'enseigne » Loin de là. Il avait pour chacun un maître à qui l'adresser. Les gens venaient donc le prier de les présenter à des philosophes, et il les y menait, il les recommandait. Est-ce que cela n'est pas vrai? Est-ce qu'il leur disait en le reconduisant « Viens m'entendre parler aujourd'hui dans la maison de Quadratus. » Et pourquoi irais-je t'entendre? Veux-tu me montrer que tu sais disposer les mots élégamment? Tu sais les disposer, ô homme, mais quel bien cela te fait-il? Applaudis-moi. Qu'entends-tu par t'applaudir? Dis-moi « Ah, et c'est merveilleux !» Eh bien, je le dis. Mais si les applaudissements doivent porter sur quelque chose que les philosophes placent dans la catégorie du bien, qu'est-ce que j'ai à applaudir en toi? Si c'est une bonne chose que de bien parler, prouve-le-moi, et je t'applaudirai. Quoi donc? Serait-ce qu'il doit m'être désagréable d'entendre bien parler? À Dieu ne plaise. Il ne m'est pas désagréable non plus d'entendre jouer de la lyre, mais est-ce une raison pour que je doive me tenir là, debout, à jouer de la lyre? Écoute ce que dit Socrate. Homme, il ne convient pas à mon âge de me présenter devant vous en arrangeant mes discours comme le fait un jeune homme. Il dit, comme le fait un jeune homme, parce qu'en réalité, c'est une jolie chose que de savoir choisir et disposer ses mots, que de savoir après cela les lire ou les débiter avec grâce, que de s'interrompre enfin au milieu de sa lecture pour s'écrier « Par votre salut, ce sont là des choses que peu de gens peuvent comprendre. » Est-ce que le philosophe prie les gens de venir l'entendre? Est-ce que, par le seul fait de son existence, il n'attire pas à lui, comme le soleil, comme la nourriture, ceux à qui il doit être utile? Quel est le médecin qui prie les gens de se faire soigner par lui? J'entends dire, il est vrai qu'aujourd'hui, à Rome, les médecins prient les malades de venir à eux. Mais de mon temps, c'était eux qu'on priait. Je t'en prie, viens apprendre que tu n'es pas en bon état, que tu t'occupes de toute autre chose que de ce dont tu dois t'occuper. Que tu te trompes sur les biens et sur les maux, que tu es malheureux, que tu es infortuné. La charmante prière. Et cependant, si la parole du philosophe n'a pas réellement ses effets, elle n'est qu'une parole morte, et c'est un mort qui parle. Rufus avait l'habitude de dire, « S'il vous reste encore assez de liberté d'esprit pour m'applaudir, c'est que je ne dis rien qui vaille. » Il parlait de telle façon que nous, qui étions assis là, nous croyions chacun lui avoir été dénoncé, tant il mettait le doigt sur ce qui était, tant il nous plaçait à chacun nos misères sous les yeux. Homme, c'est la maison d'un médecin que l'école d'un philosophe. Avant d'en sortir, il vous faut non pas jouir, mais souffrir, car vous n'y entrez pas bien portant, mais l'un avec une épaule démise, l'autre avec un abcès, celui-ci avec une fistule, celui-là avec des maux de tête. Et moi, vais-je m'asseoir là à vous débiter de belles sentences et de belles paroles pour que vous partiez m'ayant applaudi? Mais en remportant l'un de son épaule tel qu'il l'avait apporté, l'autre sa tête dans le même état, celui-ci sa fistule, celui-là son abcès? Et ce serait pour cela que les jeunes gens se dérangeraient? Ils quitteraient leurs parents, leurs amis, leur famille, leur héritage pour venir te dire bravo, pendant que tu leur débites de belles paroles? Est-ce que c'est là ce que faisait Socrate, ce que faisait Zénon, ce que faisait Cléante? Mais quoi, l'exhortation n'est-elle pas un genre oratoire spécial? Qui dit le contraire? C'est ainsi qu'il y a le genre de la réfutation et celui de l'enseignement. Mais qui donc a jamais parlé d'un quatrième genre après cela? Le genre de l'ostentation. En quoi consiste en effet le genre de l'exhortation? À pouvoir montrer à un individu ou à plusieurs dans quelle mêlée ils se trouvent emportés et comment ils sont sans cesse en quête de toute autre chose que de ce qu'ils veulent, puisque ce qu'ils veulent, c'est ce qui conduit au bonheur et qu'ils le cherchent où il n'est pas. Et pour faire cette démonstration, il te faudrait commencer par disposer un millier de sièges et inviter les gens à venir t'entendre, puis, élégamment drapé dans ta robe ou dans ton manteau, te jucher sur des coussins et raconter de là la mort d'Achille. Cessez par tous les dieux de déshonorer autant qu'il est en vous de grands noms et de grandes choses. On dirait que les exhortations ne sont jamais plus efficaces que l'orateur laisse voir à ses auditeurs qu'il a besoin d'eux. Et qui, dis-moi, en t'entendant lire ou parler, a conçu des inquiétudes sur lui-même ou est descendu au fond de son cœur? Qui a dit en sortant « Le philosophe a bien mis le doigt sur mes plaies. Je ne dois plus me conduire ainsi. » Personne. Mais quand tu as eu du succès, l'un dit « Il a bien parlé de Xerxès. » L'autre « Non, mais du combat des Thermopyles. » Est-ce donc là l'auditoire d'un philosophe ?